Je vous propose ce matin de rester encore dans la thématique des vendanges avec un texte qui nous est proposé dans les lectures de ce dimanche dans le prophète Ésaïe au chapitre 5. Et nous lirons les versets 1 à 7, Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Laissez-moi, je vous prie, chanter pour mon ami le chant de mon bien-aimé pour sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en travailla la terre, ôta les pierres et y planta un cépage de choix. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve. Il espérait qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits puants. Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits puants? Maintenant, laissez-moi, je vous prie, vous faire savoir ce que je ferai à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit dévorée. J'ouvrirai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni sarclée, les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuages afin qu'ils ne laissent plus tomber de pluie sur elle. Or la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils espéraient l'équité, et voici le crime. La justice, et voici les cris de victimes. Je vous le concède, ce n'est pas un chant très gai. Ça ressemble même plutôt à une complainte qui se termine mal. Parce qu'on y trouve au cœur, à la fin même de ce cantique, qui commence bien, hein, qui commence de façon très positive, des paroles sévères de jugement. Le texte est très beau, c'est un texte magnifique, mais qui est loin d'être heureux et gai. Et justement, ces paroles de jugement qu'on a ici, on en trouve ailleurs dans la Bible, et on pourrait se demander, mais que faire pour nous de ces paroles de jugement que nous trouvons dans l'Écriture? En quoi est-ce qu'elles nous concernent? Quand on est face à de telles paroles, comme ici, bien sûr, on pourrait faire une lecture de type historique et de se dire que là, bien sûr, le prophète Ésaïe parle au peuple d'Israël de son temps et que le Seigneur annonce que l'infidélité du peuple va provoquer la colère de Dieu et puis le jugement qui s'étendra sur ce peuple par l'exil à Babylone. Et on aurait raison de donner cette interprétation, pardon, de cette complainte, de ce chant. Mais du coup, ces paroles-là, elles nous sont un peu étrangères, parce que nous, on ne fait pas partie du peuple d'Israël d'il y a des siècles au temps d'Ésaïe, et donc on peut rester étranger à de telles paroles de jugement. À l'inverse, on pourrait faire le raccourci et prendre ces paroles de jugement directement dans les dents, sans ménagement, comme une parole qui nous serait adressée à nous aujourd'hui telle qu'elle, et on aurait peut-être un sentiment de culpabilité qui croîtrait en nous devant des paroles de jugement qui résonneraient dans notre vie comme des paroles très sévères de Dieu, parce qu'il faut bien l'avouer, on ne porte pas toujours du bon fruit pour le Seigneur. Mais y a-t-il pas une autre lecture possible de ces paroles de jugement, et de celles-ci en particulier dans le prophète Ésaïe? Pour bien comprendre des paroles de jugement, est-ce qu'il ne faut pas d'abord bien comprendre qui prononce ces paroles de jugement? Qui est ce Dieu qui profère des paroles de jugement? Pardon. Ah oui, vous n'aviez pas la deuxième partie du texte tout à l'heure, hein? Vous avez suivi. Qui est ce Dieu, qui profère de telles paroles de jugement? Et une fois que nous aurons compris qui est ce Dieu, comment alors recevoir ces paroles de jugement? Dieu, dans ce chant, dans ce beau texte, est comparé à un vigneron. C'est pour ça qu'on reste dans la thématique. Un vigneron consciencieux, qui nous est présenté comme quelqu'un qui veut entretenir pour le mieux cette vigne. Il a une vigne qui est sur un coteau fertile, alors il va tout faire pour que la vigne va pouvoir porter du fruit. Il va travailler la terre, ôter les pierres qui peuvent gêner à la croissance de la vigne. Il va mettre une tour au milieu. Cette tour était sans doute un abri possible pour un gardien qui allait protéger la vigne. Et puis il va s'occuper de cette vigne, la bichonner pour qu'elle soit vraiment dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir porter du bon fruit, donner du bon raisin et faire du bon vin. Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. À la fin, le vigneron est déçu. Mais justement, ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est de réaliser que le Seigneur accepte de n'être qu'un vigneron. Un vigneron qui va tout faire pour que la vigne porte du fruit, qui va prendre soin de cette vigne, mais ce n'est pas lui qui portera le fruit. Il ne pourra, et le texte dit de la sorte, il ne pourra qu'espérer que la vigne porte du bon fruit. Deux fois ce verbe apparaît dans ce texte. Il ne peut qu'espérer que la vigne porte du fruit. N'est-ce pas étonnant de la part du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui pourrait s'arranger pour que la vigne porte du fruit, qui pourrait s'arranger pour qu'on soit mené à la baguette, mais qui choisit de n'être qu'un vigneron, qui certes va tout faire pour que sa vigne porte du bon fruit, mais qui ne pourra finalement qu'espérer que sa vigne portera vraiment ce fruit. Dieu choisit de nous laisser un espace de liberté. Il pourrait contraindre sa vigne à porter du fruit, il pourrait nous mener à la baguette, pour que nous fassions ce qu'il veut et qu'il soit glorifié, il choisit de n'être qu'un vigneron qui ne peut qu'espérer que nous portions du bon fruit. Et cet espace de liberté que le Seigneur nous donne est indispensable pour une vraie relation. On n'a pas de vraie relation avec un robot ou avec une marionnette. On ne peut avoir une vraie relation que s'il y a un vis-à-vis, s'il y a un face-à-face, s'il y a un espace de liberté et de responsabilité. C'est cet espace-là que le Seigneur nous laisse. Et du coup, pour le Seigneur lui-même, cet espace de liberté laisse la possibilité qu'il soit déçu, comme le vigneron dans cette image de la vigne. D'être déçu, comme parfois le Seigneur peut l'être, par rapport à la façon dont nous menons notre vie. Ce Dieu, qui parfois prononce des paroles de jugement, c'est vrai, est d'abord un Dieu qui prend le risque d'être déçu, parce qu'il nous laisse un espace de liberté. C'est un témoignage d'amour du Seigneur, qui nous prend pour des êtres responsables. Dans cette image ici, dans ce cantique de la vigne, le vigneron travaille, protège, essaye de rendre sa vigne fertile, et après que le travail ait été fourni, il est en droit d'attendre quelque chose. Il est en droit d'espérer que sa vigne produira du bon fruit, du bon raisin. Mais sa déception ici est à la mesure de son attente. Là encore, dans le contexte propre d'Ésaïe, c'est une façon pour le Seigneur de rappeler toute la bonté et la fidélité qu'il a manifestée à son peuple, une fidélité qui a traversé les siècles, depuis la promesse faite à Abraham des siècles auparavant, de choisir le peuple qui sera issu de la descendance d'Abraham, de l'avoir délivré, sorti de l'esclavage en Égypte, de l'avoir formé en peuple en lui donnant des commandements, une charte d'alliance, un Dieu qui s'est engagé par alliance avec ce peuple, qui lui a donné une terre et qui l'a délivré de ses ennemis. Voilà tout ce que le Seigneur a fait pour son peuple, comme le le vigneron a pris soin de sa vigne, il pouvait espérer quelque chose, attendre quelque chose de ce peuple qu'il a sauvé, qu'il a créé, qu'il a délivré. Il espérait du bon fruit, il a eu des fruits purs. Il espérait la justice et l'équité, il a trouvé des crimes et des victimes. Il était en droit d'attendre de son peuple qu'il respecte cette charte d'alliance. Ça n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce que Dieu est en droit d'attendre de nous ? Nous ne sommes effectivement pas le peuple d'Israël du temps d'Ésaïe. Mais Dieu n'est-il pas aussi notre Créateur ? Et le Créateur n'est-il pas en droit d'attendre quelque chose des êtres qu'il a créés, au moins de la reconnaissance ? Dieu n'est-il pas notre Sauveur, celui qui a pourvu à notre salut en envoyant son Fils, qui a souffert, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité ? Il l'a pourvu à notre salut. Est-ce qu'il n'est pas en droit d'attendre quelque chose de nous ? Et plus encore, si nous avons reçu par la foi Jésus-Christ comme Sauveur, n'est-il pas en droit d'attendre quelque chose de nous ? La charte de la Nouvelle Alliance, celle que le Seigneur peut s'attendre à ce que nous la suivions, c'est ce commandement, ce double commandement ancien et pourtant nouveau, depuis la venue et l'œuvre de Jésus-Christ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peut-être que là, nous avons un bon résumé de ce que le Seigneur est en droit d'attendre de nous. Il est en droit de le faire parce que lui nous a aimés, parce que lui nous a montré l'exemple de l'amour en Jésus-Christ, parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a sauvés. Placé dans cet espace de liberté que le Seigneur nous donne, il espère que nous porterons du bon fruit. Il attend de nous ce bon fruit de l'amour de Dieu et du prochain. Mais on l'a dit, ce chant, cette lamentation se termine mal. Le vigneron qui est déçu par sa vigne, finalement va la laisser à l'abandon, sans protection. Vous remarquerez que dans ce champ de la vigne du vigneron, le vigneron n'arrache pas la vigne. Il ne va pas détruire la vigne. Simplement, il va défaire ce qu'il avait fait pour la protéger. Il ne va plus s'occuper d'elle et il va la laisser à l'abandon, livrée à elle-même. Et je pense que là, nous avons une bonne définition de ce qu'est le jugement de Dieu. De manière générale, il est avant tout de cet ordre, de livrer, de laisser les pécheurs, ceux qui se détournent de Dieu, livrer à eux-mêmes. Dieu n'est pas un père fouettard qui punit les enfants désobéissants que nous sommes. Ce n'est pas ça le jugement de Dieu. Ce n'est pas un Dieu cruel qui prendrait plaisir à punir. C'est un Dieu qui a toujours une visée pédagogique dans ses jugements. Vous vous écartez de moi ? Ce que je dis, ce que j'attends de vous ne vous intéresse pas ? Eh bien, je vous laisse. D'accord. Je vous laisse livrer à vous-même et vous en subirez les conséquences. Peut-être alors comprendrez-vous que vous avez besoin de moi. Pourquoi de telles paroles de jugement ? Parce que Dieu ne peut pas s'accommoder du mal, tolérer le mal, parce qu'il sait les conséquences qui en découlent. Le verset 7, dans ce chant, la fin du chant, souligne que non seulement le Seigneur s'indigne est déçu de ce qui se passe dans son peuple, mais il s'indigne de ce qu'il y ait non seulement des crimes, mais aussi des victimes. Voilà pourquoi le Seigneur ne tolère pas le mal, parce que tout crime provoque des victimes. Et le Seigneur ne peut pas tolérer, s'accommoder de cela. Que faire donc ? Je reviens à ma question du début. Que faire des paroles de jugement dans l'Écriture ? des paroles comme celle-ci dans ce texte. Peut-être les prendre d'abord comme des encouragements, des exhortations à bien user de notre liberté, cette liberté que le Seigneur nous donne. Des exhortations à poursuivre la justice et le bien. Peut-être aussi des rappels solennels de notre responsabilité. Nous sommes des êtres responsables devant Dieu. Il est en droit d'attendre quelque chose de nous. Peut-être des paroles qui nous rappellent combien le mal que nous faisons ne nous concerne pas seulement nous, mais a aussi toujours des conséquences autour de nous et occasionne des victimes, brise des relations, influence notre façon de vivre les uns avec les autres. Et c'est pourquoi il y a ces paroles de jugement aussi dans l'Écriture, non pas pour nous écraser sous un poids de culpabilité, mais pour nous aider à remplir finalement la vocation que le Seigneur nous adresse, parce que le Seigneur a une haute estime de nous, et il croit, il espère que nous pouvons porter du bon fruit. Il faut bien constater, ici comme ailleurs, il y a de nombreuses paroles de jugement dans l'Écriture. Mais la façon dont nous les recevons dépendra beaucoup de notre vision de Dieu. Le Dieu vigneron qui nous est présenté ici est un Dieu qui choisit de nous laisser un espace de liberté parce qu'il nous considère comme responsables. Et c'est justement pour cela qu'il est en droit d'attendre quelque chose de nous. Les paroles de jugement apparaissent alors comme une façon pour Dieu de nous rappeler notre responsabilité, voire peut-être parfois de dénoncer des comportements néfastes. Mais le Dieu qui juge n'est pas le Dieu qui punit. Nous punissons nous-mêmes si nous nous éloignons de Dieu. Et la pire chose qui puisse nous arriver, c'est d'être livrés à nous-mêmes sans le secours du Seigneur. Finalement, les paroles de jugement appellent des paroles de grâce. Et c'est ce dont nous avons besoin. Ces paroles du jugement nous rappellent que nous ne pouvons nous passer de Dieu, de son amour, de sa grâce, pour produire de bons fruits, pour aimer notre Créateur et pour aimer notre prochain. Ce rappel-là nous conduit tout à nouveau à celui qui nous a aimés jusqu'au bout, celui qui nous transmet son amour par son Esprit, Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.